Seigneur, ce matin, nous voulons faire silence en nos cœurs pour tourner nos regards vers celui qui nous a rachetés, vers celui qui nous a choisis, qui s'est révélé à nos cœurs, vers le Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous réunissons chaque dimanche et nous ne voulons pas considérer ça comme une habitude, un rite. Mais Seigneur, nous te demandons encore de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos bouches ce matin pour que nous t'apportions la louange qui t'est due. Seigneur, nous sommes venus pour entendre ta parole, mais non seulement cela, nous sommes venus pour t'adorer ce matin. Alors, Seigneur, dispose nos cœurs, que nous puissions vraiment te rendre grâce et te remercier pour tout ce que tu accomplis pour chacun d'entre nous. Veuille prendre, Seigneur, soin de tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Seigneur, que tu les remplisses de ta présence, de ta paix et de ta joie. Seigneur, merci encore de pouvoir se confier en toi ce matin pour guider ces moments. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Pour débuter ce moment, on prendra dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons partager la scène une fois de plus. Et ces quelques versets nous invitent à nous souvenir que son corps a été rompu pour nous, que son sang a coulé pour chacun de nous ici. Ces versets englobent tout ce que notre Seigneur a subi et enduré jusqu'à la crucifixion, en citant son corps rompu et son sang qui a coulé. Et pour compléter ce que l'on vient de lire, on va reprendre Ésaïe 53, les versets 1 à 11. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Dans ce texte, il n'y a pas le détail des souffrances que Jésus a endurées. Celles-ci sont relatées dans les évangiles du Nouveau Testament, de manière chronologique jusqu'à sa mort à la croix. Mais Ésaïe 53 nous montre toute la dimension du sacrifice de notre Seigneur et ce que cela lui a coûté d'accepter le plan de Dieu. Ce plan dévoilé dans ces versets et qui va s'accomplir mot pour mot 700 ans plus tard au travers des récits des apôtres. Dans Ésaïe 53, au verset 11, Jésus est appelé mon serviteur. Un serviteur, c'est celui qui est au service du maître, d'un souverain. C'était le cas pour Jésus au service du Père. Un serviteur juste, rejeté par les hommes, souffrant volontairement en offrant sa vie pour les autres, et qui sera ensuite élevé par Dieu. Dans les versets 1 à 3 de Ésaïe 53, on peut lire que Jésus est méprisé, il est rejeté, dédaigné, décrit comme un homme de douleur et n'est pas reconnu comme le Messie. Et dans le Nouveau Testament, cette prophétie est confirmée. Jean 1, versets 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et Marc 9, verset 12 dit « Pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ?» Dans les versets suivants de Ésaïe 53, il est annoncé que notre Seigneur allait souffrir à la place des autres, à notre place. Il a porté nos douleurs, nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos errances. Et le Nouveau Testament confirme ces versets. 1 Pierre 2, verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et le verset 5 d'Ésaïe 53 nous dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Romains 5, versets 8 et 9 confirme « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et puis, dans Ésaïe 53, dans les versets 7 à 9, Jésus souffre en silence, sans ouvrir la bouche. Comme une brebis muette, il accepte cette souffrance sans se révolter, sans dire un mot, en étant maltraité et opprimé. Et puis le Nouveau Testament nous dit, Matthieu 27, versets 12 à 14, « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. 1 Pierre 2, 22, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Et Hébreux 4, verset 15, nous dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et puis au verset 10 d'Ésaïe 53, il est dit qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On peut voir que le plan parfait de Dieu entre les annonces d'Ésaïe 53 et la réalisation, si on peut dire. Alors, soyons certains que notre Seigneur a été rejeté, oui, mais il a été choisi par Dieu pour venir nous sauver. Il a souffert, mais il était victorieux au final. Il est mort, mais il est ressuscité et il est vivant parmi nous ce matin. Nous avons vu que la parole de Dieu est d'une cohérence parfaite entre les prophéties annoncées et leur réalisation. Le plan de Dieu a été réalisé sans ajout ni omission par rapport à ce qui avait été annoncé. C'était un plan parfait. Et chacun de nous ici fait partie de ce plan, est au centre de ce plan, car nous en sommes le but. Et la raison de ce plan, c'est le verset de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tant aimé chacun de nous ici. Dieu, le Père, avait tout prévu, tout réglé, et Jésus a accepté et réalisé toutes les étapes de ce plan en faisant une confiance absolue au Père. Tout reposait sur lui, il n'a pas reculé pour nous offrir cette possibilité d'un salut, certes immérité, mais d'un salut gratuit. Par pure grâce, Jésus est venu offrir à chacun d'entre nous le salut avec cette seule condition pour en bénéficier. Jean 6, verset 47 nous le dit, il y a plusieurs versets dans la parole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est aussi simple que cela, si on peut dire. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce repas que nous allons prendre, il nous demande de le faire en mémoire de lui. Alors, pour en mesurer peut-être encore plus la portée et la portée de ce sacrifice, on pourra relire trois versets d'Ésaïe 53, les versets 3 à 6, en mettant « je » à la place de « nous ». Je propose de le faire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, Je l'ai dédaigné, je n'ai fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. J'étais errant comme une brebis, je suivais ma propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui mon iniquité. Dieu a un plan parfait pour nous. Ce que l'on vient de relire, ce n'est pas la première fois qu'on le fait avec, en mettant le jeu, mais c'est pour qu'on comprenne bien ce que notre Seigneur a fait pour nous. Alors nous allons partager ce repas, que nous puissions nous remettre devant lui en lui disant merci, tout simplement. Seigneur, nous venons de relire tout ce que tu as fait pour nous, relire tout ce qui avait été annoncé et ce qui a été réalisé. Le plan parfait de Dieu a été réalisé, nous en sommes le but. Tu es venu pour nous sauver, nous ne pouvons que te louer et te rendre gloire à nouveau. Amen. Alors nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 8. Acte 8. Et on lira les 5 premiers versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Alors, c'est un moment très, très difficile, évidemment, pour l'Église, parce que c'est une grande persécution. Et les premiers martyrs, bien sûr, datent de cette époque. Et à ce moment-là, beaucoup se sont dispersés dans ces contrées de la Judée, de la Samarie. Et il y a ce qu'avait dit le Seigneur, ceci. Mais ensuite, quand ils auront été dispersés, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours dans des circonstances qui sont quelquefois dramatiques. Ça, c'est l'opposition au Seigneur Jésus. Mais c'est, on peut dire que cette fois, ce sont les moments où a commencé cette évangélisation qui était déjà annoncée par le Seigneur avant qu'il remonte au ciel. Et nous allons lire maintenant dans la suite de ces personnages qu'on voit. On a ici Philippe étant descendu dans... Alors, ce n'est pas la ville de Samarie, c'est dans une ville de Samarie. Darby traduit plus juste parce qu'il y a plusieurs villes en Samarie. Mais on ne sait pas laquelle, en fait. Il prêcha le Christ. Alors, qui est ce Philippe? Philippe, il est déjà connu. On le trouve dans le chapitre 6 des Actes. Alors, on va voir, on va le présenter, si on veut. Dans le chapitre 6... On lira les versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Et le verset 7 dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Voilà le choix qui est fait par le Seigneur lui-même. Et ce choix qui leur est donné à ceux qui sont ici, les 7, eh bien, c'est une tâche qui est très banale. C'est de servir aux tables. Elle est secrète,
personne ne le connaît, on pourrait dire. Et pourtant, si le Seigneur l'a voulu ainsi, c'est qu'il y avait une grande utilité afin que, bien sûr, les autres s'occupent de la prière et de la parole. Et dans la liste qu'il y a, le premier qui est nommé ici, de six hommes, c'est Étienne. Il y a un ordre dans la parole de Dieu, toujours. Il faut le prendre, cet ordre. Alors Étienne, on avait déjà vu que c'était quelqu'un qui avait rempli de sagesse et de foi et d'Esprit Saint, cette fois-ci. C'était donc noté ainsi. Donc Étienne, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, qui a une vision claire du Seigneur, qui a une grande foi. Et donc Étienne, il va servir aux tables et après, eh bien, le Seigneur va faire un autre chemin pour Étienne. Et il va lui demander une obéissance totale pour entrer dans ce que nous avons vu vendredi soir, ce que le Seigneur nous a donné, dans ce courant. C'était, il faut qu'on se rappelle bien ce qu'on a reçu vendredi. Dans ce courant d'eau vive du Saint-Esprit que le Seigneur, que le Saint-Esprit veut pour chacun de nous. Et nous avons rappelé dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Le Seigneur a annoncé que pour ceux qui croiraient en lui, il y aurait des fleuves d'eau vive qui couleraient. Et ce que nous avons appelé vendredi, c'est que pour chacun de nous, dans les exemples de la parole, Dieu veut nous amener à ce que nous puissions donner notre cœur pour que le Saint-Esprit fasse couler de chacun de nous ici, puisque nous avons pris la première personne pour voir ce que Jésus avait fait pour nous, c'est qu'à la première personne, dans chacun de notre prénom, dans nos vies, il puisse y avoir ce courant de l'eau vive du Saint-Esprit. Et Étienne servait aux tables, et le Seigneur, pour qu'il puisse complètement servir Dieu, eh bien, on sait qu'il allait avoir pour Étienne, on l'a déjà cité, un chemin qui serait beaucoup plus dur. C'était celui du sacrifice. Et dans Actes 7, versets 59 à 60, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est l'esprit du Seigneur Jésus qui est en lui, avec quasiment les mêmes paroles, et le sacrifice d'Étienne donc était ce que Dieu lui demandait pour que ce fleuve d'eau vive dans sa mort puisse se réaliser. Et comme nous connaissons la Bible, nous savons que le sacrifice d'Étienne a eu une portée pour l'humanité après, jusqu'à aujourd'hui et jusque plus tard, parce que c'est cela qui a amené la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, et c'est ce qui est rappelé dans le début du chapitre 9. Et Paul, dans tout son parcours et son ministère, se rappelle et rappelle dans la lettre qu'il a ce qu'il a fait contre Dieu, qui gardait ses vêtements, et cela gardait dans une humilité la plus profonde qui soit, et que Dieu veut aussi pour nous, pour que le sacrifice du pardon de Jésus-Christ soit plein et entier. Combien on voit que ce sacrifice de martyr d'Étienne a donné gloire au Saint-Esprit, et ce sera jusque dans l'éternité. Et puis, après, le deuxième qui a été cité dans ces sept, après Étienne, eh bien, c'est Philippe. Alors Philippe, on va voir lui, puisqu'on a lu le chapitre 8, on va le continuer à partir du verset 5. On va voir ce qu'a fait Philippe pour pouvoir servir le Seigneur, lui, et être rentré dans ce courant des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. On voit que le ministère de Philippe est béni d'une façon extraordinaire et exceptionnelle. Et il y a ces miracles, il y a les délivrances d'esprits impurs. Il y a des paralytiques, des boiteux qui sont guéris. Et c'est ce que le Seigneur a fait en plusieurs occasions, bien sûr, dans la parole. Et c'est ce que le Saint-Esprit peut toujours faire aujourd'hui. Et ce qu'il y a une grande joie dans cette ville. La joie de tous ceux qui sont là, qui sont guéris. La joie d'être libérés de leurs maux physiques, mais aussi de leurs maux spirituels, de ces pression que faisait l'ennemi sur eux. Et c'est encore là cette image, cet esprit qui coule à plein bord. Et c'est Philippe qui est porteur de ce fleuve d'eau vive dans ce passage-là. Et ça va plus loin, puisqu'on sait qu'après, il y aura un homme qui faisait de la magie, Simon, et qui va se... En ayant vu ce que faisait Philippe, eh bien, va pouvoir se convertir. Après, il retombera, mais voilà ce qu'a fait Philippe. Donc, son chemin est différent de celui d'Étienne, mais tous les deux, au départ, servaient aux tables. On va se rappeler de ça. Le service le plus humble qui existe, le plus caché. C'est le chemin que le Seigneur veut, bien sûr, pour chacun de nous. Et alors, on va reprendre un peu ces choses et on va revenir maintenant dans Acte 8 et on va parler de Philippe. On lira au verset 26. Verset 26 d'Acte 8, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Alors, peut-être on aurait pu penser, si on était à la place de Philippe, mais enfin, Seigneur, es-tu sûr que tu ne te trompes pas? On l'a déjà partagé, ça. Tu ne vois pas les miracles qui s'opèrent ici par mon ministère? Cette puissance de guérison, ces cœurs qui se donnent à toi? On aurait pu le penser, mais Philippe avait déjà une autre révélation du Seigneur. Et c'est quand même très étonnant que cette histoire arrive. Quand on voit ces foules qui se convertissent par ce Philippe plein d'Esprit Saint, et le Seigneur lui dit « Va ». Non, il est totalement soumis au Saint-Esprit. Et c'est la caractéristique de Philippe. C'était la caractéristique d'Étienne. Et c'est aussi la caractéristique en ce matin, où on est très heureux d'avoir partagé à nouveau ce pain et cette coupe, de se dire que pour chacun de nous, le Seigneur a aussi ce chemin dans son courant de fleuve d'eau vive pour toute notre vie. La seule condition, évidemment, après avoir reconnu nos péchés et être pardonné, eh bien, c'est d'être totalement soumis au Saint-Esprit. Et le Seigneur va l'envoyer dans une destination, on connaît la Bible, qui n'a rien à voir avec les foules qui étaient là et les succès spirituels qu'il y avait par le Saint-Esprit. Tu vas aller du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il n'y a pas grand monde. Ben, il n'y a personne, puisqu'il est désert. Puis Philippe, il va être tout seul. Alors, vous savez où se trouve Gaza? On en parle bien sûr beaucoup dans les actualités. C'est cette bande qui est en bas, du côté de la Méditerranée, hein, du pays d'Israël. Et là, il était désert. Et ça, c'est ce verset 26. Et le verset 26 nous montre à lui seul, avec le début du 27, qui était Philippe réellement, qui servait aux tables humblement, qui a des résultats extraordinaires, et le Seigneur a une autre marche après qui va suivre. Verset 27, « Il se leva et partit. » Donc il est parti, alors il obéit de façon très prompte, il ne discute pas, il ne peut-être comprend pas, mais ce n'est pas pour lui le problème. Il avance et il va aller donc voir la suite, comment ça va se passer. « Il se leva et partit. » Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il y a cet Éthiopien qui est là, et puis il fait ceci au verset 28, « Et il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. » Alors Philippe, lui, il voit cela. Si on se met à sa place, il arrive, il voit l'Éthiopien. Mais bien sûr, il ne comprend pas ce qui se passe. Il n'a aucune révélation. Qu'est-ce que va faire le Seigneur? Il ne va pas le laisser comme ça. Bien sûr que non. Et au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On voit que le chemin de Philippe, il est guidé pas à pas par le Saint-Esprit. Pas trop de choses en avance. Et c'est encore pour nous une leçon. Le Seigneur nous guidera toujours pas à pas, sans connaître ce qu'il va nous demander le lendemain, en lui faisant confiance pour aujourd'hui, mais aussi pour le lendemain qu'on ne connaît pas. J'ai tellement besoin de cette leçon. Ce n'est pas une leçon que je donne, c'est un conseil qui nous encouragera tous. Et donc il y va, il s'approche du char. Alors, au verset 30, et la suite, « Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. » Alors, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Mais Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qui disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui la tond, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé. Sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Il lui cite tous ces beaux versets d'Ésaïe qu'il ne comprend pas. On l'a vu. Alors l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et sur ce chemin, eh bien, Philippe a été envoyé. Il ne savait pas pourquoi là-bas, il ne savait pas en arrivant ce qui arrivait, ce que Dieu allait lui demander, et c'était pour une seule personne. C'était cet homme, perdu dans le désert, qui revenait de Jérusalem, qui lisait le prophète Ésaïe, il le lisait probablement à haute voix, puisque Philippe a pu l'entendre, en tout cas il a lu avec lui, mais qui ne comprenait pas. Mais il était sur un chemin que Dieu avait placé pour lui, l'eunuque éthiopien. Il ne le savait pas non plus, évidemment, puisqu'il était dans le désert, mais il lisait la parole de Dieu. Alors, on voit que Philippe va lui annoncer l'évangile, hein, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Mais avant de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Philippe, il a pris le temps de monter à côté du char de l'Éthiopien. Il a pris le temps de l'écouter, de savoir quel était son besoin. Et il a pris le temps de voir quelle était aussi sa recherche devant la parole de Dieu qu'il ne comprenait pas. C'est très important, cette notion. Il n'est pas allé brutalement et dit « je vais t'annoncer l'évangile comme quelquefois je peux le faire ». C'est faux, tout ça. Il a pris le temps d'écouter, de voir les besoins, ce que le Saint-Esprit lui disait par rapport à cet eunuque, pour que le Saint-Esprit mette en lui la compréhension de ce qu'il voulait faire dans le cœur de ces eunuques éthiopiens. La parole de Dieu est vraiment magnifique, d'une profondeur extraordinaire. Et alors, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, et aussi, alors, l'eunuque, il est convaincu. Il est convaincu, bien sûr, puisque c'est le verset 36 qui va nous montrer. La lumière se fait. Après cette recherche que faisait l'eunuque, par la venue de Philippe, il est convaincu, et au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ben, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ça, c'est le chemin normal, on pourrait dire, d'une âme qui vient au Seigneur Jésus, qui a reçu le pardon de ses péchés, qui a vu la gloire de Jésus-Christ. Philippe ne lui a absolument pas parlé de baptême. C'est l'eunuque qui en a parlé. C'est lui qui l'a dit. Il lui a annoncé le message. Bien sûr que le baptême devait être dedans, mais il ne lui a rien dit pour lui-même. Et il a une obéissance, cet homme. Ben alors, qu'est-ce qui empêche, puisque voilà d'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Quelle belle question. Et pour nous aussi, ça nous amène aussi dans notre engagement de la vie chrétienne à obéir à ce que le Seigneur nous dit rapidement, puisque c'est la suite logique, que ce soit pour le baptême ou les autres choses de notre vie. Alors il fait arrêter le char, et puis ils descendent dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Comme le chemin de Philippe se trace et s'ouvre et arrive à sa conclusion, et comme le chemin aussi de cet eunuque éthiopien, seul dans son désert, il ne pensait jamais rencontrer personne, et ces deux chemins se rencontrent à ce moment-là, à cet endroit-là, désert, parce que l'un et l'autre, surtout le premier, a obéi au Saint-Esprit et que l'autre recherchait le Saint-Esprit. Quelle belle image! C'est un point de conjonction dans un lieu et dans un temps et par une personne. Comme c'est magnifique! Et puis alors à la suite, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Là, on voit la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc on sait que Philippe a été enlevé. Il n'a pas fait le chemin à pied. C'est marqué ainsi. On sait par exemple que quand Ézéchiel, le chapitre 3, verset 12, « L'Esprit m'enleva », on sait aussi au chapitre 8, verset 3, « L'Esprit m'enleva entre le ciel et la terre ». Le Saint-Esprit donne ces choses où il peut enlever, il enlève Élie. Voilà. Et l'Esprit a enlevé Philippe. Il avait obéi, et le Seigneur va l'emmener ailleurs. Mais il ne pensait pas qu'il allait être enlevé non plus, Philippe. C'était quand même une expérience unique. Et alors à ce moment-là, il se trouva dans Azote. Alors Azote, c'est un peu au-dessus. Et puis après, il va continuer son chemin jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il a continué son chemin d'annoncer l'évangile partout où il passait. C'est un chemin. Un chemin là qui nous est montré. Bien sûr que la Bible, elle est faite pour nous encourager. Elle est faite pour nous montrer le chemin pour chacun de nous, par les exemples de ceux qui sont passés avant nous. Et en prenant cet exemple de Philippe et de l'eunuque, nous sommes tous des Philippes. Et le Seigneur veut se servir de nous tous. Il veut se servir, si nous lui donnons notre cœur, pour tout ce qu'il nous montre, que ce soit les tâches les plus humbles et les plus cachées, ou plus tard, pour d'autres expériences, peut-être l'expérience du sacrifice, comme on a vu pour Étienne, ou pour d'autres choses, comme on a vu pour Philippe. Alors pour nous aussi, il a un chemin. Ce chemin, il est particulier. On ne le connaît pas, mais si, et nous voulons bien sûr ce matin, puisque nous adorons le Seigneur, nous voulons lui offrir notre cœur, complètement. Nous voulons être soumis avec joie, comme l'a été Philippe au départ et comme l'était l'unique qui était bien après. Il était tout joyeux après, il avait changé de vie cet homme. Alors, en ce début d'année, on avait mis « je hein, » pour Ésaïe 53, c'était très bien, « je peux continuer ma vie chrétienne comme je l'ai souvent fait, beaucoup d'années auparavant, de lire la parole, de prier, d'aller aux réunions. » Ça, c'est le minimum, on ne va pas dire syndical, pas dans mon chrétien. Mais c'est le minimum vital, mais ce n'est que le minimum. Et finalement, ne pas porter beaucoup de fruits pour Dieu. Je l'ai fait de longues années, c'est pour ça que j'en parle. Et un jour, j'avais une fois cité, il y a un frère qui était venu prêcher chez nous, je ne sais plus qui c'est, et il avait posé cette question: de quand date la dernière personne que tu as amenée à Jésus-Christ? Moi, ça m'avait frappé, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. Cette parole m'avait vraiment frappé. Et si je garde cette fonction de bon chrétien, d'être aux réunions et de prier et lire ma Bible, ça me donne une certaine bonne conscience, mais est-ce que cette vie-là, ma vie-là, est-ce qu'elle plaît à Dieu? La réponse est non, elle ne lui plaît pas. Évidemment, je suis sauvé, évidemment, je connais la parole, je prie, oui, mais il attend de moi, pour cette année 2026, cette année nouvelle, où je veux comprendre que je dois me mettre à son service, sous la direction du Saint-Esprit. Et on reprend le jeu qu'on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 53, qui était tellement bénéfique, moi. Et je dois chercher, sous la direction du Saint-Esprit, comme a fait Philippe, guidé par le Saint-Esprit jusqu'au désert avec l'eunuque, je dois chercher ceux qui sont perdus sur le chemin désert de leur vie, qui sont perdus dans leur péché, qui sont perdus dans leur ignorance, puisque l'eunuque ne comprenait pas ce qu'il disait, comprends-tu? Et puis, comment pourrais-je leur expliquer si je ne vais pas les chercher? Qui sont perdus dans leur souffrance, on connaît tous ceux qui sont autour de nous et on voit le monde dans lequel on vit, qui sont perdus dans leur angoisse et dans la crainte de la mort. Voilà ce que m'a inspiré ces lectures. Alors, on va prendre dans Ésaïe 6 maintenant. Ésaïe 6, puisque Ésaïe a suivi un chemin qui était celui dont on est en train de parler. Ésaïe, qui était déjà un prophète, qui était déjà un homme de Dieu. Ésaïe, quand il voit la gloire du Seigneur avec ses séraphins, et au verset 4, il est dit, d'Ésaïe 6, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Tout en étant déjà un serviteur de Dieu, Ésaïe n'avait encore pas fait la rencontre du Seigneur, n'avait encore pas été convaincu de ce péché qui l'emmenait en enfer. Et nous devons toujours demander au Seigneur qu'il nous convainque que notre péché, notre vie, finira dans l'enfer si nous ne recevons pas le salut. Ça nous montre après combien le salut, ce que nous a apporté Jésus sur la croix, est immense, incroyable, et que c'est pour nous. Et ceci nous amène alors à ce moment-là à être reconnaissants pour nous-mêmes et à vouloir aussi pouvoir dire à ceux qui sont autour de nous qu'ils rencontrent le Seigneur. Et juste au verset 8, Esaïe va dire « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et voici donc la question que me pose en ce début d'année 2026, après avoir revu le sacrifice de Christ, après avoir vu, peut-être pas bien, mais un peu, l'éternité de joie, de bonheur que nous connaîtrons avec lui, et à quoi nous échappons, à la perdition éternelle. Alors Esaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. C'est ce qui a été fait pour Étienne quand il était au martyr, et c'est ce qui a été fait pour Philippe, on en a vu toute son histoire, quand le Seigneur lui a dit, maintenant va. Va sur le chemin désert. Le Seigneur nous donne à nous aussi ce même message ce matin pour l'année qui vient. Envoie-moi pour sauver ceux qui sont perdus. Fais de moi un de tes serviteurs. Et c'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et si nous vivons pour lui, il nous enverra. Oh, peut-être pas bien loin, mais il nous enverra vers tous ceux qu'il a prévu de mettre sur notre route pendant ce qui nous reste de vie. Et notre rôle, c'est de n'en perdre aucun, c'est d'être attentif à cette voix du Saint-Esprit pour annoncer le salut à ceux qui sont autour de nous, vivre pour lui. Et au verset 20 de Corinthiens 5, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Quel titre, ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, nous, de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et si nous voulons, et nous le voulons, recevoir ce matin ce message du Seigneur pour notre vie, pour cette année, alors il y a une première chose qui changera, c'est notre vie de prière. Parce que Dieu mettra dans notre cœur que celui vers qui il nous envoie est perdu et va en enfer. Et notre prière, ma prière, ne sera plus de demander des choses pour l'un et pour l'autre, mais ce sera une prière d'intercession, avec un fardeau sur le cœur, pour qu'un tel ou une telle vers qui je vais aller accepte le Seigneur, comme Philippe l'avait dans son cœur et comme l'eunuque a pu l'accepter rapidement. Ce sera une prière d'intercession et ce sera une supplication. Vous savez que l'apôtre Paul dit, il faut faire des prières et des supplications. Et alors nous aurons rempli cette part de nous-mêmes dans le fleuve d'eau vive du Saint-Esprit qui coule le long de notre vie pour amener tous ceux qui sont perdus à la vie éternelle. Quelle grande, grande œuvre le Seigneur a pour chacun de nous. Et quelle joie de voir qu'il veut y répondre. C'est lui qui fera tout, bien sûr. Alors nous avons une belle année devant nous, encore pour son service.
Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, après nous avoir rappelé, tu étais venu pour nous racheter, pour nous sauver. Tu nous as aussi donné l'ordre de route pour cette année, Seigneur, de servir, être à ta disposition pour partager ce que tu nous as donné, pour partager l'évangile, Seigneur. C'est ce que tu attends de chacun. Nous te remercions de nous avoir rappelé ces paroles, de nous avoir montré tes voies, tes plans, Seigneur, pour nos vies. Te demandons de garder ces paroles dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique. Merci de nous raccompagner chacun, de conduire cette semaine et de donner à ceux qui n'étaient pas là également leur part de bénédiction, Seigneur. Oui, merci de la fidélité que tu montres à notre égard. Nous te disons encore merci. Amen.